Je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Irung.
Bonsoir. Enseignement primaire et secondaire à quelques jours de la rentrée scolaire. Où en est-on avec le processus de la gratuité de l'enseignement primaire en RDC? Nos invités dans cette émission sont Jovin Mukadi, conseiller chargé de la coopération internationale au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, EPSP. Monsieur le conseiller, bonsoir.
Bonsoir.
Patient Mouemeri, secrétaire exécutif chargé de la communication et presse au syndicat des enseignants du Congo, SIECO. Il est également enseignant de carrière. Monsieur Mouemeri, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Professeur Jean-Paul Yaouidi, spécialiste en sciences de l'éducation. Il est professeur à l'Université pédagogique nationale UPN. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Vos réactions, chers auditeurs et internautes, nous sont déjà parvenues. Jacques Aslungue de Bukavu, Sud Kivu. Je salue les efforts que l'État entreprend dans le secteur de l'EPSP, mais le grand défi reste l'amélioration des conditions salariales des enseignants. Wagenira Pitua de Mahagi en province orientale, c'est inutile de parler gratuité de l'enseignement primaire en RDC, car les parents continuent à payer des milliers d'enseignants mécanisés, mais non payés par l'État congolais, qui est censé le faire. Bienvenue à tous dans votre émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution dans son article 43. Comme vous le savez, la première phase de la gratuité de l'enseignement primaire a été lancée en 2010. Elle ne concernait que les classes de première, deuxième et troisième primaire et s'appliquait à toutes les provinces, sauf aux villes de Kinshasa et Lubumbashi. Kelinkouté, vous vous êtes penché sur quelques provinces. Qu'en est-il de l'effectivité de la gratuité?
Dans certaines provinces de la RDC, la gratuité de l'enseignement pour l'année scolaire passée a été effective. C'est le cas entre autres de la province orientale, du Bas-Congo, de la province de Bandundu et du Kasaï oriental. Les parents n'ont payé aucun frais administratif ou prime, sauf les cahiers, uniformes et livres. Cependant, certains dérapages ont été observés par exemple dans le Bandundu, où certaines écoles n'ont pas respecté cette mesure. Les responsables ont été sanctionnés sévèrement. Une autre difficulté rencontrée toujours dans cette province du Bandundu est celle des enseignants non encore mécanisés qui continuent à être pris en charge par les parents. Au Sud Kivu, par contre, la gratuité des frais scolaires a été appliquée faiblement dans certains coins de la province, notamment à Shabunda et Fizi. Concernant la préparation de la rentrée scolaire 2011-2012, la plupart des parents déclarent qu'ils éprouvent d'énormes difficultés car le salaire semble insuffisant. Autre problème qui se pose en cette rentrée scolaire, c'est celui du non-paiement des enseignants. Certains syndicalistes contactés affirment être sceptique quant au respect de cette date du 5 septembre pour la reprise des cours. Il dénonce ce qu'il considère comme une lenteur manifeste du gouvernement central de ne pas appliquer le barème salarial de Mboudi.
Merci Kelinkouté. Gratuité effective dans certaines provinces et pas dans d'autres. Jovin Mukadi, vous êtes conseiller chargé de la coopération internationale au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Quel bilan peut-on dresser de la première phase de ce processus?
Je crois que merci d'abord Alain pour la parole et surtout pour cet échange. Je crois que les bilans pour nous se résument d'abord par rapport à l'objectif de départ qui a fait que le président de la République, Joseph Kabila, annonce la gratuité, c'est-à-dire l'amélioration de l'accès de nos enfants à l'enseignement primaire. Et par rapport à cet objectif, je peux vous avouer qu'aujourd'hui, nous avons au moins environ 1 million d'enfants qui ont rejoint l'école à partir de l'année scolaire 2010-2011. Ça, c'est le premier bilan que je peux faire, c'est-à-dire un résultat positif sur le plan de l'accès.
Sur le plan de l'accès, simplement, mais est-ce que la qualité a suivi?
Je crois qu'il y a, là, il y a plusieurs éléments qu'il faut mettre en ligne de compte. Parce que nous avons voulu, ou le gouvernement a voulu, que la gratuité soit un processus. Nous ne pouvons pas nous dire que si notre enseignement connaît des problèmes de qualité, comme par ailleurs d'autres pays, ce qui n'est pas une justification, bien sûr. On ne peut pas refuser à un enfant d'aller à l'école, soi-disant, créer une discrimination pour privilégier la qualité. Je ne crois pas. Vous venez de lire tout à l'heure, il y a la Constitution qui proclame la gratuité. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'y est jamais arrivé. Et il fallait faire un pas. Et ce pas a été fait depuis la rentrée scolaire 2010-2011.
Prenons cette réaction qui nous vient de Kinshasa pour vous, Jovan Mokadi.
Chef de travaux, Jean-Bernard Mibeko, Kinshasa. Bien que le gouvernement a décrété la gratuité de l'enseignement au niveau des 3 premières années du primaire, les infrastructures n'ont pas suivi. À telle enseigne que certaines classes des premières années ont été débordées jusqu'à accueillir plus de 70 élèves avec un seul enseignant.
Réaction de Jovan Mokadi.
Je crois que, comme nous l'avons dit, nous sommes dans c'est une crise que nous avons provoquée en fait, mais qui était nécessaire par rapport à la volonté de faire en sorte que chaque enfant congolais ait quand même accès à l'enseignement. C'est ce qui fait que le nombre, il y a eu surpeuplement, ça c'est vrai dans certaines classes, mais le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Nous avons entrepris d'assurer une certaine formation qui sera liée à la pédagogie des grands nombres. Je crois que même si on le dit que le nombre a dépassé un certain niveau, je crois que même ici à Kinshasa, moi j'ai un enfant qui étudie dans une école de la place, c'était même avant, bon, à Kinshasa bien sûr que la gratuité n'était pas, Kinshasa n'était pas intéressé par la gratuité, mais il y a des grandes écoles à Kinshasa où on retrouve 80 élèves, avant même qu'il y ait cette mesure de gratuité. Mais ces écoles-là ne sont pas les plus mauvaises du pays, que je sache.
Alors, dans certaines écoles, on a atteint 70 élèves en province. Il y en a même qui parlent de 100 élèves. Et le gouvernement, à vous entendre, n'a privilégié que le simple fait de lancer la gratuité, mais sans tenir compte du reste, pas de mesures d'encadrement, pas de mesures, par exemple, en matière d'infrastructure et autres.
Je crois que les mesures d'encadrement, il y en a eu. Il y en a eu, mais par rapport à la part du budget alloué au secteur de l'éducation aujourd'hui dans notre pays, nous ne pouvons pas dire que nous avons réuni tous les préalables. Mais les mesures, il y en a eu. Après échange, par exemple, avec les syndicats des enseignants, nous sommes arrivés à mécaniser environ, je crois, 22 000 enseignants du primaire. Et nous sommes là pour cette année, à partir du mois de juillet, nous devons mécaniser encore 20 000 enseignants du primaire. Nous avons procédé à la distribution des kits scolaires pour l'année 2010-2011. Donc, il y a toute une série de mesures qui ont été prises. Et là, nous venons par exemple de mettre en place un dépliant qui définit un certain nombre de critères, de modèles, de construction des écoles avec la participation de la population en utilisant les matériaux locaux. Parce que comme vous le savez, 50 ans après l'indépendance, la plupart de nos écoles sont des écoles en paille.
Alors pour...
Oui, Alain.
Je vous en prie. Pour revenir à la gratuité, il y a certains enseignants qui nous ont affirmé que les chefs d'établissement ont récupéré pratiquement cet argent perdu dans la gratuité dans les classes de première, deuxième et troisième. Ils ont récupéré cet argent pratiquement dans les classes montantes, quatrième, cinquième et sixième primaire. Donc pratiquement rien n'a vraiment changé dans le fait.
Je crois qu'il y a un élément principal sur lequel j'aimerais insister, c'est sur le dialogue qui doit exister dans la gestion de nos écoles, entre le gouvernement, les enseignants, les parents. Parce que, comme vous le savez, depuis 2007, la fixation des frais de scolarité s'est faite au niveau de chaque province. Et plusieurs fois, le gouvernement, disons le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, à demander aux parents de s'impliquer dans la gestion de nos écoles. Je vous assure, surtout en ville, on découvre qu'il y a beaucoup de parents qui envoient les enfants à l'école et qui ne sont jamais arrivés à l'école, qui ne savent même pas, qui ne connaissent même pas les noms de l'enseignant de leurs enfants, à moins qu'ils ne le trouvent dans un cahier de communication.
Patient Mouemeri, vous êtes secrétaire exécutif chargé de la communication et presse au syndicat des enseignants du Congo SIECO, également enseignant de carrière. Quel est votre bilan à vous de la gratuité de l'enseignement pour cette première phase?
Merci beaucoup Alain. Et je pense vous serez d'accord avec moi tel que M. Jovin l'a dit. La gratuité qui est consacrée par la Constitution, c'est un fait. Mais sincèrement, je l'ai dit tout haut, l'encadrement ne s'est pas subi. Ça, c'est un fait quelque chose vrai. C'est-à-dire, il y a eu des classes pléthoriques à telle enseigne que les élèves se sont retrouvés franchement devant un enseignant. Et dans ces conditions pareilles, vous serez d'accord avec moi que la qualité ne doit pas être mesurable d'une façon qualitative, bonne, disons. Je veux dire cela en disant que le gouvernement fournit des efforts, bien sûr, en respectant la Constitution, mais nous devons l'insinuer ici. Parce que c'est quelque chose qui est vrai et qui est visible. Je donne un cas, par exemple, à Bukavu, école primaire Ntoali, où vous trouvez 120 élèves dans une classe. Rien à faire, cet enseignant est débordé et il est à mesure. Il n'est pas à mesure de donner bien vraiment ses prestations. Au-delà de ça, nous devons le dire très très bien. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Platon qui l'a dit il y a 2500 ans. Quand un cordonnier athénien fait mal son travail, c'est juste les Grecs qui seront mal chaussés. Mais quand un éducateur bâcle son travail, c'est toute une société qui en pâtit. Et vous allez avoir une république des ignares et des inconscients. C'est le cas pareil que nous sommes en train d'aller dans notre pays. Nous sommes en face, je peux dire, d'un juventicide à telle enseigne que si le gouvernement ne prend pas garde de mettre beaucoup de moyens, tel que je viens de l'a dit, beaucoup d'argent, je parle ici de budget conséquent pour éduquer nos enfants, Alain, croyez-moi, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous allez vous retrouver avec, j'ai dit, beaucoup de diplômés, mais qui n'ont pas assez de qualités scientifiques requises pour faire face aux défis que notre pays nous attend. D'un côté, il y a eu les efforts qui se sont manifestés de la part du gouvernement. Il est vrai, par exemple, je cite le cas de l'uniformisation du salaire. Ça, c'est quelque chose que nous tous avons été contents. Et qui a fait que, franchement, beaucoup d'enseignants à l'intérieur ont eu à bénéficier de cela. Il y a un autre cas, par exemple, la publication des armées d'État à un record, à un temps record. Ça, ce sont des cas vraiment applaudis. Mais alors, quelle est la qualité de l'enseignant? Quelle est la qualité de l'enseignement? Aussitôt, comme vous le savez, l'enseignant qui commence sa carrière pauvre et il meurt pauvre, n'attendez rien de celui-là parce qu'effectivement, il va vous donner un mauvais rendement. Vous êtes sans ignorer aujourd'hui dans notre pays que l'enseignant, c'est celui qui est le plus délogé, qui n'a pas un avenir qui est promettant. Et comme vous le savez, beaucoup de qualifiés ne veulent plus rester dans l'enseignement. Et conséquence, vous allez voir, à plupart des cas, ceux-là qui sont dans l'enseignement, ce sont des mercenaires. Et c'est là, pour revenir au problème de gratuité. La gratuité, qui est un fait constitutionnel, mais je l'ai dit et je le répète, il n'y a pas eu de mesures d'encadrement à telle enseigne qu'aujourd'hui, croyez-moi, quand vous arrivez devant un pléthore des enfants, l'enseignant est débordé. Et il est incapable de faire un suivi comme il fallait, parce qu'il y a l'évaluation, il y a la manière de donner cours. Tout ça, on doit tenir compte de cela pour qu'on parle vraiment de la qualité. Et aujourd'hui, c'est un fait qui est vrai. Combien d'élèves terminent l'examen d'État et la sixième année secondaire, il va à l'université, vous le voyez, il parle un français à peu près, il a des mots justes, parce qu'effectivement, ses enfants sont devenus pratiquement des clients des enseignants, tandis que les parents sont des bailleurs de fonds.
Donc, à vous comprendre, le bilan de la gratuité de l'enseignement primaire est mitigé. On a respecté, dans certaines provinces, la Constitution. Il y a beaucoup d'élèves maintenant, mais les mesures d'encadrement n'ont pas suivi. Prenons cette réaction qui nous vient de Bougna, en province orientale, pour vous, patient Mouemeri.
étudier lequel assistant à l'université de Sekouma de Abuja. Je me pose des questions sur la capacité réelle de l'État congolais dans sa conjoncture actuelle de tenir cette commerce. Je suis par contre ici qui pense qu'il faut reprendre avec le système de Minerval qui consistait au paiement une fois pour toutes au début de l'année une somme symbolique qui du coup constituait le frais de fonctionnement des écoles au lieu d'attendre le financement des gouvernements qui arrivaient à l'État et mettre en difficulté les écoles au début de l'année.
Alors, j'ai noté dans sa question qu'il se pose des questions quant à la capacité réelle du gouvernement congolais dans sa conjoncture économique actuelle de rendre effectif cette gratuité de l'enseignement passé en Moimeri. Par quoi fallait-il commencer? Par la gratuité ou par améliorer les conditions de vie et de travail des enfants?
Rien à faire. Il fallait d'abord commencer par construire des infrastructures pour recevoir ces enfants. Deuxièmement, mettre les enseignants dans des conditions adéquates pour qu'ils puissent donner bien le cours. Et enfin, avoir une politique d'encadrement pour qu'effectivement ces enfants, parce qu'aujourd'hui, Alain, là, il faut les dessiner les yeux, il y a plus de 8 millions encore d'élèves qui sont hors circuit des systèmes éducatifs, c'est-à-dire qui n'ont même pas l'accessibilité dans une salle de classe. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré cette volonté du gouvernement qui a décrété ces gratuités, mais il faut le dire clairement, il faut d'abord commencer à construire des infrastructures, à recevoir, pour qu'il soit capable de recevoir ces enfants, et pour qu'effectivement l'enseignant qui est au centre de tout puisse être motivé. Parce que comment se fait-il que l'enseignant qui n'a qu'à peu près moins de 100 dollars aujourd'hui, vous savez, c'est 46 000 qu'on donne à un enseignant à l'école primaire, comment voulez-vous attendre quelque chose de cet enseignant pratiquement qui est minable et pauvre? Donc, à la fois, il fallait construire des bâtiments, donc des salles de classe, mais aussi mettre au centre de la vie, d'après les sociaux de l'enseignant. Sans quoi, Alain, on peut tout exercer, on peut tout dire. Si l'enseignant congolais n'est pas au centre des sociales, je vous dis, c'est en vain qu'on peut avoir tout ce qu'on peut dire comme gratuité de consort.
Alors, la situation actuelle ne crée-t-elle pas beaucoup de problèmes qu'elle n'en résout, patient moi-même?
Bien sûr. Le gouvernement n'a pas une politique anticipative de la vision éducationnelle du Congo. Nous sommes en face d'un pays qui quasiment vient de la guerre. Donc, il y a un taux de natalité très élevé. Il faut que le gouvernement puisse avoir une vision très panoramique des choses pour qu'effectivement, il puisse voter des budgets colossaux, des budgets adéquats pour financer l'éducation. Parce que à quoi ça servirait vraiment de donner 5,6% au système éducatif congolais, qui du reste, vous savez, il résorbe pratiquement plus de 346 000 enseignants, sans compter autant des millions d'élèves.
Professeur Jean-Paul Yaouidi, vous êtes spécialiste en sciences de l'éducation, professeur à l'Université pédagogique nationale UPN. Vous avez suivi les deux précédents intervenants. Quelle est votre analyse en ce qui concerne l'effectivité de la gratuité de l'enseignement?
Merci, monsieur le journaliste, pour votre invitation. Vous savez, le mal dans notre pays, c'est que nous banalisons ce qui est dramatique et nous dramatisons ce qui est banal. Nous voulons beaucoup plus mettre l'accent sur la forme et non sur le fond. La baisse du niveau de connaissances des élèves, des apprenants dans notre pays est dramatique. Et il faut nécessairement s'y pencher pour voir dans quelle mesure il faut que nous puissions relever ce niveau de connaissances. La gratuité de l'enseignement est une disposition de la Constitution qui a été acceptée par tout le monde. Mais lorsque, en ce moment actuellement, on parle de cette gratuité, moi je me pose la question, c'est pour résoudre quel problème? Est-ce résoudre les problèmes de la non-scolarisation des enfants en âge scolaire? Je ne les pense pas. Je me dis, puisque nous sommes là en politique, c'est peut-être pour calmer les élans de l'opposition politique qui crie à la violation de la Constitution. Je me dis, là nous nous plongeons dans les domaines de l'irrationnel. Parce que nous quittons la rationalité de la science, l'objectivité de la science. Et lorsque vous parlez de l'objectivité, de la rationalité, vous emmenez cela dans la politique, on vous dit, c'est parce que vous n'êtes pas au gouvernement. C'est parce que vous n'êtes pas en train de gérer, et tout ce que vous avez appris à l'université, ça ne s'applique pas au niveau de la politique. Et vous trouverez encore une autre personne vous dire, Bomba Mayele Nayo. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de l'apport du savoir.
Gardez votre intelligence.
Voilà, on n'a pas besoin de l'apport du savoir pour permettre à ce que nous puissions réfléchir conséquemment et résoudre les problèmes de notre pays en matière de l'éducation. Souvent, en face d'un problème dans notre pays, nous les complexifions et les démultiplions de façon à ce que nous nous perdons. Et à un certain moment, nous serons là uniquement pour nous plaindre. Et lorsque un adulte est en train de se plaindre, en place de sa place, se trouve à un autre endroit que à un autre endroit, peut-être je peux dire, là où il y a des animaux, où il y a des chiens, parce qu'ils ne font qu'aboyer. Nous ne pouvons pas accepter à ce qu'à tout moment, nous puissions nous plaindre. La situation de notre enseignement, de notre éducation est très grave. Et si nous devons considérer les points de vue des uns et des autres, Monsieur le Conseil du ministre a évoqué un aspect important pour dire qu'il y a un bilan positif par le fait que sur l'aspect de l'accès, c'est très bien. Et celui qui nous a suivi, l'auditeur, a relevé encore un autre aspect pour parler de l'infrastructure. C'est-à-dire, bien, on a résolu un problème du fait que les enfants sont allés nombreux à l'école. Mais il y a un autre problème qu'on n'a pas résolu, un problème d'infrastructure. Donc, c'est dire que la chose de la gratuité de l'enseignement devrait être perçue de manière globale. Pour que réellement, nous puissions en ce moment nous dire que le bilan est positif. Parce qu'on aurait résolu beaucoup de problèmes.
Mais professeur, vous en tant que spécialiste de l'éducation, un enseignant qui se trouve dans une classe de 120 élèves, il est dans quel état d'esprit, vous qui êtes spécialiste en la matière?
D'abord, il doit se comporter comme s'il se trouvait dans une prison. Donc, c'est-à-dire, les élèves, il doit appliquer une discipline contraignante. Que personne ne bouge, que personne ne soulève son doigt, que personne, vous voyez, les enfants seront dans une situation contraignante. De façon à ce que la discipline dans ce contexte-là empêcherait l'évolution personnelle de chaque enfant. Et empêcherait aussi que lui-même, l'enseignant, puisse évoluer dans son processus d'action pédagogique de bonne manière pour permettre à ce que chaque élève puisse profiter de son action. Mais du point de vue aussi, de la législation scolaire. Une classe, on ne peut pas avoir dans une classe, surtout de l'école primaire, plus de 45 élèves. C'est déjà lorsque nous nous trouvons dans une classe de plus de 45 élèves, c'est une classe qui n'existe pas. Alors donc, c'est-à-dire que lorsque nous avons beaucoup de classes avec ce nombre d'enfants, c'est que nous devons dire que nous n'avons pas de classe dans notre pays.
Professeur, il y a Martin de Chikapa au Kassai Occidental qui dit qu'il n'est pas bon d'être enseignant en RDC car celui-ci est clochardisé et ce qu'il touche ne représente rien. Il est même obligé de se convertir en mendiant envers certains parents et élèves juste pour sa survie, ce qui réduit même la qualité des enseignements qu'il dispense faute de motivation. Aujourd'hui, parler encore de la gratuité, c'est comme si on renvoyait avant sa mort l'enseignant dans sa tombe. Professeur.
Ah, mais c'est évident. C'est vraiment évident. Mais le mal, c'est quoi? C'est que je regrette beaucoup plus dans son intervention. C'est le fait de dire qu'il n'est pas bon d'être encore, de vouloir devenir enseignant dans ce pays. C'est très grave. Malheureusement, c'est ça. Son affirmation n'est rien d'autre que la conséquence de ce qui est vécu dans notre société. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait beaucoup de gens, puis qu'il y ait beaucoup d'enfants dans nos différentes familles qui puissent dire non à l'enseignement. Et quel serait l'avenir de notre pays? Lorsque nos enfants doivent dire non, tournons les dos à l'enseignement. Mais plutôt, ce que nous devons faire en sorte que nos enfants, au niveau de la fin des familles, puissent dire, moi, je dois devenir enseignant. Et alors, il y a l'apport du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement envisage sur cet aspect des choses pour permettre à ce que le secteur de l'enseignement puisse être un secteur envié par nos enfants? Parce qu'en ce moment-là, nous allons garantir l'avenir de ces pays.
Monsieur le conseiller Jovin Mukadi, à Augustin Gombo de Mbandaka, l'Équateur, il est vrai que la gratuité de l'enseignement au niveau primaire est une disposition constitutionnelle qui doit être respectée, mais au-delà, cette gratuité doit être suivie des mesures d'accompagnement. Nul n'ignore la modicité de salaire payé à nos enseignants, les frais versés par les parents suppléant à leur modique rémunération. La solution durable consisterait à améliorer le salaire de l'enseignant pour que ce dernier soit aussi considéré comme les autres couches socio-professionnelles du pays. Il ne faut pas chercher à résoudre un problème tout en créant un autre. Réaction.
Merci beaucoup pour cette préoccupation. Je crois qu'ici, nous devons faire deux tableaux. Un tableau où vous avez une ratio de 45 élèves à l'école ou dans une classe qui n'ont ni manuel, où il n'y a pas de craie pour l'enseignant, il n'y a pas de kit pour l'enseignant, il n'y a pas de kit pour l'enfant. Et un autre tableau où vous avez plus de 45 élèves dans une classe avec des manuels.
80 à 120
avec des manuels. avec des kits, avec un salaire uniformisé, avec des frais de fonctionnement.
Pendant que l'enseignant qui est devant eux n'a pas les conditions requises.
S'il vous plaît, je crois que le problème des conditions d'enseignants est lié à la production que notre communauté a aujourd'hui. Qu'est-ce que nous produisons par rapport aux autres pays que nous sommes en train d'envier? Parce que le salaire, c'est quoi? C'est la répartition du revenu national, de la production nationale. C'est cela. Et l'État est en train de fournir des efforts pour arriver, tant soit peu, à améliorer ces conditions de l'enseignant. Et je dois vous dire que nous portons aujourd'hui encore l'état du programme d'ajustement structurel. Pendant plusieurs années, je crois que mon frère Mohamed, il l'a dit tout à l'heure, il y a eu des enseignants. Le nombre par rapport au taux démographique de notre pays, le nombre d'enfants qui vont à l'école, le nombre d'enseignants qu'il faut ajouter chaque année, cela n'a pas été pris en compte pendant plusieurs années. Et je dois vous dire qu'en 2007, on ne payait que moins de 150 000 enseignants. Aujourd'hui, nous sommes à 330 000 enseignants qui bénéficient d'un salaire, si minime soit-il. Donc, on est en train d'évoluer. Comme je l'ai dit, la gratuité, c'est un processus. Les mesures d'encadrement, il y en a eu. Peut-être qu'elles sont insuffisantes, mais nous devons, et nous sommes en train de travailler de sorte que les infrastructures soient... Et on peut avoir des infrastructures scolaires de très haut standing, mais s'il n'y a pas des manuels là-dedans, si les enseignants ne sont pas formés, je crois que c'est la même chose. On revient au problème de la qualité. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire ce qu'il peut faire avec les moyens dont nous disposons dans la construction des centres de formation des enseignants, dans la formation, ponctuelle des enseignants pendant les vacances. Donc, tout cela concourt à ce qu'on arrive tant soit peu à relever les niveaux de la qualité de notre enseignement.
Vous le savez, dans deux semaines, c'est la rentrée scolaire. Les parents se préparent à cet effet. Et pour beaucoup, c'est un véritable casse-tête. De l'achat de l'uniforme, des fournitures scolaires et autres accessoires au paiement du Minerval, les dépenses avoisinent déjà les 400 dollars américains pour un seul enfant. Quel est le coût de la rentrée scolaire pour une famille moyenne congolaise? Réponse dans ce reportage de Dako Tambikila.
Ces trois enfants étudient au collège Saint-Raphaël de Lumété. Nous l'avions rencontré dans les locaux du collège, en train de se plaindre. Maman Angèle doit débourser 189 dollars par enfant si elle veut le voir étudier cette année. Cette somme comprend notamment la compte du Minerval et les frais connexes liés au fonctionnement de l'établissement. Par ailleurs, s'acquitter de ses droits ne suffit pas. Le dur à réaliser pour Madame Angèle reste l'achat des fournitures scolaires et des objets classiques. Il s'agit notamment de l'uniforme pour lequel elle a dépensé près de 20 dollars par tenue. Pour les quêtes, c'est également 20 dollars. Précisons que les sacs pour élèves se négocient présentement à 15 dollars. Et quand elle ajoute le coût des accessoires liés à la vie scolaire de chaque élève, c'est-à-dire manuels, cahiers et autres, la facture est plutôt salée. $1,300, c'est à peu près la somme que doit débourser Madame Angèle afin de réussir la rentrée scolaire de ses enfants à raison de 400 dollars par enfant. Elle et son mari sont fonctionnaires de l'État. Il leur est difficile même avec leurs deux salaires réunis, dit-elle. Déjà, elle envisage de faire étudier cette année seulement ses enfants du secondaire au détriment de ceux du primaire dont le sort dépendra de la Providence.
Réaction patient, Mohamed, je vous ai vu très ému. Hein?
Oui, mais ce qui est encore grave, je l'ai dit encore, autant de fois les parents souffrent pour payer la scolarité de leurs enfants, les parents souffrent pour payer la scolarité de leurs enfants, mais autant de fois également les enseignants aussi souffrent, parce que cet argent profite beaucoup plus aux gestionnaires qu'aux enseignants. Et c'est ce que je viens de dire ici. C'est beaucoup plus la commercialisation du service éducatif, parce qu'aujourd'hui, l'enseignant est considéré comme un ouvrier qui pratiquement doit travailler Il produit de l'argent venant des enfants qui sont pratiquement des clients, je le répète encore, et les parents sont des bailleurs de fonds. Quand l'argent arrive chez les gestionnaires, ils ont la grande part. Et conséquemment, je l'ai dit, nous sommes incapables de recruter comme il faut parce que ne peut être recruté l'enfant qui paye mieux sa motivation. On évalue mal parce qu'effectivement, ces enfants là-bas, ce sont eux vraiment le vrai patron. Imaginez-vous dans une école où vous payez par exemple, l'enfant vous paye 150$. Et quand l'État est capable de vous donner ne fût-ce que 100$, ne vous en faites pas, Alain. Cet enfant ne peut pas rater le cours.
Ne peut pas échouer.
Et non seulement quand on évalue mal, on oriente mal. Parfois, tu vas voir, c'est les parents qui disent « Bon, tu sais, quand on a ça, la carte littéraire, ça sera ma carte citoyenne en français. » C'est-à-dire, laisser que cet enfant faire même le littéraire, même s'il n'est pas fort en français. Pour dire quoi, l'enfant peut être faible et en mathématiques et en français. Si seulement il veut suivre l'option, vous êtes obligé de faire passer cet enfant parce qu'effectivement, si vous le laissez passer, vous avez un client de moins. Et quand on arrive lors des délibérations, on ne délibère que les enfants qui ont bien payé. Conséquemment, les enfants passent des classes sans aucun niveau adéquat. Et c'est ce qui est dramatique, comme le professeur l'a dit. Dans 15 ans, quelle est la société robot que nous avons? Quel type d'enfants, quel type d'élite que nous voulons avoir? Parce que je parlais des juventicides ici, je parlerai même d'un génocide intellectuel qui est en train d'être vu sans que l'État puisse prendre franchement les mesures adéquates. Il est vrai, Alain, je l'ai dit et je le répète. Nous n'avons pas une politique avec une grande vision panoramique de l'éducation dans notre pays. Comment expliquer, je leur dis encore une fois de plus, ce secteur qui est si vital et si essentiel pour le développement d'un pays, vous mettez moins de moyens, même si vous amenez un ministre venant du ciel, il ne saura même pas pouvoir mieux faire parce qu'il lui faut des moyens de sa politique.
Alors, on a suivi dans le reportage passé en Moimeri, pour les parents, c'est déjà très compliqué pour cette rentrée scolaire. Et pour les enseignants, allons-nous avoir une rentrée scolaire apaisée?
Ah! Une question encore, parce que nous sommes dans les négociations. Vous êtes sans ignorer que nous sommes sortis des négociations le jeudi, parce qu'effectivement, le gouvernement était incapable de satisfaire aux revendications des enseignants. Nous tous, à l'unanimité, nous sommes sortis, et aujourd'hui, on ne sait même pas s'il y aura rentrée, parce que c'est conditionné aussi de l'amélioration des conditions de rémunération de l'enseignant.
Il semblerait que le gouvernement souhaiterait vous ajouter 5 000 francs.
Semblerait, c'est ce que le gouvernement a proposé, et il a toujours dit, là, sachant que ça serait frais, nous n'avons pas de moyens. Il n'y a pas la production. Et là, nous disons finalement, fermez les PSP. Si vous voyez que vous n'avez pas moyen pour pouvoir payer les enseignants, pourquoi avoir tout un ministère si colossal comme ça, sans pour autant mettre des moyens conséquents pour prendre en charge ces besoins éducatifs dans notre pays, pratiquement présente, quoi.
Patient Mouemer, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif chargé de la communication et presse au syndicat des enseignants du Congo, SIECO. Vous êtes également enseignant de carrière. Professeur Jean-Paul Yaoui dit dans le reportage de tout à l'heure, on ne connaissait le délestage qu'en matière d'électricité, mais là c'est dans les études aussi. Le parent décide de payer pour tel et tel autre parce qu'il n'a pas les moyens.
Chacun de nous doit avoir honte à cela. On ne doit pas sourire, on ne doit pas rire. Mais on doit beaucoup plus avoir honte, parce que ce n'est pas normal qu'un parent, un compatriote, puisse dire, au vu et aussi de tout le monde, que moi, désormais, je me dis, il faut que je puisse envoyer mes deux enfants à l'école, au secondaire, sauf à l'école primaire, parce que je n'ai pas d'argent. Ça ne peut pas faire plaisir. Et puis je voulais revenir sur ce que les conseillers du ministre a dit. Moi, je ne veux pas qu'ils puissent soutenir cette thèse pour dire que mieux vaut une classe pléthorique, qu'on trouve chaque enfant avec un manuel, et ça va. Mais non, il faut nécessairement comprendre la notion d'une classe pléthorique. Si, par rapport à sa dimension reconnue pédagogiquement, une classe exige à ce que nous ayons 45 élèves, et 2 par banc, et que nous avons dans une classe par banc 5 élèves. Voyez, déjà même si chaque enfant doit disposer d'un manuel, les conditions de travail sont tellement médiocres qu'à la fin, on ne peut pas s'attendre à un bon résultat. Ce que nous voulons, c'est l'efficacité. Nous voulons de l'efficacité. Si vous avez demandé à ce que nous puissions intervenir, c'est parce qu'il faut des pistes de solutions. Il y a la gratuité, c'est acceptable qu'il y ait gratuité, oui. Mais il faut nécessairement qu'il y ait des conditions d'application de cette gratuité pour que cela soit profitable à chaque enfant qui va à l'école, que cela soit profitable au pays. Et il ne faut pas que nous puissions à un certain moment dire, voilà notre problème, c'est aussi le problème qui se pose dans un autre pays. C'est comme un enfant qui est dans une classe, a une interrogation, il a obtenu 0, il pose la question à son collègue, à son condisciple, tu as obtenu combien? Le condisciple lui dit, j'ai obtenu 0. Il pose encore la question à un autre condisciple, tu as obtenu combien? Il a obtenu 0 et il se console. Bisous, surtout aujourd'hui 0. Nous ne pouvons pas, nous, en tant que responsables, avoir en nous de telles manières de voir des choses. Il faut beaucoup plus chercher dans quelle mesure il y a rentrée scolaire, dans quelle mesure il faut que les choses aillent mieux. Pour que
le conseiller dit qu'on ne produit pas. Qu'est-ce qu'on va...
Nous n'avons pas seulement le problème de la mobilisation des recettes. Nous avons aussi un problème de la sécurisation des recettes mobilisées et de l'affectation des recettes. Alors, lorsque dans un pays se pose un problème de mobilisation des recettes, de sécurisation des recettes, d'affectation des recettes, donc il se pose un problème d'homme.
Professeur, vous avez suivi tout à l'heure Patient Mohamed dire que cette rentrée portait déjà les germes d'une rentrée agitée. Du point de vue de l'enfant, vous en tant que psychologue, qu'est-ce que ça représente pour un enfant à chaque rentrée scolaire? Il doit y avoir des mouvements, des grèves, à répétition, on reprend les cours, on est à la maison demain. Qu'est-ce que ça peut représenter pour un enfant psychologiquement?
Mais qu'est-ce que l'enfant attend des adultes? L'enfant attend tout des adultes. Et il attend des adultes la satisfaction de ses besoins fondamentaux, dont la formation. Il attend des adultes qu'ils soient sécurisés. Il attend des adultes son bon développement, son bon épanouissement. Mais si l'enfant constate qu'il est dans un environnement insécurisant pour lui, cela veut dire qu'il y aura des conséquences, non seulement sur l'enfant, même sur le fonctionnement même de la famille. Sur le fonctionnement de la famille. Donc, c'est-à-dire que le mal, lorsque ça se trouve dans un individu, il ne faut pas s'en manquer. Parce que vous allez vous subir les conséquences de ce mal. Alors, ce qu'il faut seulement, que nous puissions œuvrer pour le bon développement, le bon épanouissement affectif de nos enfants. Si nous avons prévu que les moments des vacances, c'est pendant des mois, nous devons aussi prévoir, préparer la rentrée scolaire pour ces enfants. Et à la fin, la femme va poser la question à son parent, « Maman, maintenant je dois me rendre à l'école. » Que la maman ou le papa lui disent, « Non, tu ne peux pas partir à l'école parce que l'enseignant, lui, n'est pas payé. » Bon, imaginez, l'enseignant doit être pour un enfant un modèle. Il doit se situer à un certain niveau supérieur et l'enseignant est réduit à un certain niveau. Comment voulez-vous que cet enfant puisse apprendre quelque chose de cet enseignant?
Merci professeur. Je rappelle que vous êtes spécialiste en sciences de l'éducation, également professeur à l'Université pédagogique nationale UPN. Jovin Moukadi, vous êtes conseiller chargé de la coopération internationale au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et PSP. Il y a cet auditeur Katawan Jaswedi, le stoïque de Kindo Maniema, qui vous demande quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour que la rentrée scolaire qui se pointe à l'horizon ne commence pas avec les grèves des enseignants et les paiements tardifs de leurs salaires, ou en est-on avec le bout du temps réclamé par les enseignants chaque année? Brève réaction.
Merci beaucoup pour cette question. Je crois que M. Mohamed venait de dire tout à l'heure que le dialogue s'est interrompu. Je ne crois pas. Je crois que nous sommes en négociation, le dialogue reprendra. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement, le secteur de l'éducation, c'est pas un secteur qui est géré par une seule personne. Nous sommes des partenaires. Si nous voulons qu'il y ait une rentrée, comme l'a souhaité le professeur tout à l'heure, on doit se retrouver. Nous ne pouvons pas interrompre le dialogue. Le dialogue devra reprendre.
Et donc, pour vous, cette rentrée sera apaisée?
Je crois que nous venons de passer 4 ans quand même de rentrée apaisée.
Et agité, chaque fois, apaisée, agité,
non,
apaisée,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grève formelle comme telle. Il n'y en a pas eu. Et je crois que cet effort qui a été fourni et de la part des syndicats des enseignants et de la part du gouvernement et des parents doit se poursuivre si nous voulons aller de l'avant. Nous ne construirons jamais le secteur éducatif sans ces partenariats-là.
Alors, bref, juste une précision, monsieur le conseiller. Qu'en est-il de l'application de l'arrêté ministériel du 2 juillet 2011 qui fixe au 20 de chaque mois le paiement des enseignants?
Un arrêté, je...
Bon, il y a une décision ministérielle qui est fixée au 20 le paiement des enseignants. Apparemment, ce n'est pas effectif.
Bon, je l'ai dit tout à l'heure, nous devons y arriver lorsque toutes les conditions seront réunies.
Alors pourquoi l'annoncer si on ne sait pas le réaliser?
Je crois que nous avons commencé à partir du mois de mars de payer le salaire d'abord dans le mois. Et il y a eu ce qu'il y a eu au niveau de la gestion des finances publiques qui a fait qu'il y a eu un mois de retard. Mais je crois que cela a été rattrapé et nous sommes en train d'évoluer dans le sens de rencontrer la volonté de la partie syndicale. Je crois que c'est un devoir gouvernemental que de satisfaire à ces désirs-là, c'est pas à ces désirs, à ces devoirs, à cette mesure qui doit s'appliquer nécessairement.
Merci, patient Mouéméry. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent. Raymond Kasangala de Kinshasa, je me demande quelle est la mission du ministère de l'EPSP. Est-ce d'assurer l'enseignement gratuit ou pour quel objectif ou d'alléger la charge aux parents et à s'associer politiquement ou assurer une formation de qualité? Sylvain Mouyoui de Mbujimaï au Kasaï Oriental, s'il faut parler de gratuité de l'enseignement pour nos enfants de la première et deuxième année primaire, c'est bien, mais je pense que l'État n'a plus assez d'écoles pour faire face à cette situation, car aujourd'hui, c'est un secteur qui est beaucoup plus tenu par les privés, patiemment Emery.
Oui, Alain, je le dis encore une fois de plus. Vous savez, le mal dans notre pays, nous voulons toujours résoudre le problème d'une façon conjoncturelle. On ne veut pas résoudre le problème d'une façon structurelle et d'une façon un peu plus durable possible. Vous venez de le dire, chaque fois, nous négocions. Bien sûr, nous arrivons à décanter la situation telle que nous rentrons à l'école, mais le professeur l'a dit, cette rentrée devait être préparée, je crois, depuis juillet. Le conseil vient de le dire encore une fois de plus. Nous sommes en train de faire tout pour qu'on rentre à l'école, mais je l'ai dit encore, la volonté politique de bien payer les enseignants n'est pas là-bas, dans notre pays. L'enseignant qui pratiquement doit rentrer à l'école pour aller donner cours, comme vous le savez Alain, je quitte chaque fois, par exemple, chez moi à 5h30 pour être à l'arrêt et commencer à attendre le transport. Je commence les cours à 7h30, je termine à 13h30, je dois encore une fois de plus préparer les leçons, je dois transcrire les cotes, je dois encore... Jusqu'à 19h, l'enseignant en RDC travaille. Et quand vous allez voir ce qu'on lui donne comme rémunération, il est incapable de faire face à tous ses besoins. Et ça démotive. Et c'est ce qui fait que, quand nous négocions pour qu'on puisse payer décemment, je reprends encore le mot décemment, je ne demande pas qu'on ait donné à l'enseignant beaucoup d'argent ou un grand salaire, décemment, c'est-à-dire qu'il soit capable de payer sa maison, de nourrir sa famille du 1er au 30, de se soigner. Donc tout ça, ça entre en compte pour dire que cette rentrée n'a jamais été préparée en vision de dire « voici l'acteur principal qui est l'enseignant, doit aller prester ses services comme il faut ». Nous voulons résoudre ces problèmes d'une façon toujours conjoncturelle. Et c'est ça le grand débat dans notre pays. Il faut qu'on ait une vision globale de la chose et que le gouvernement se mette pour dire voici les moyens pour mettre, en fait, pour que chaque rentrée puisse être apaisée.
Concluez, patient Mohamed, parce que l'émission va toucher à ça.
Je conclue en disant franchement, nous sommes tous des Congolais. Nous voulons être des patriotes, mais pas des ventriotes. Je répète, des patriotes, mais pas des ventriotes.
Professeur Yaouidi, patient Mouméria, tout à l'heure parlé de la commercialisation de l'enseignement, et ce sera votre conclusion également.
Je voulais mettre un point sur les I.
Et les J aussi.
Oui, vous savez, lorsqu'on parle de gratuité, cela ne veut pas dire que personne ne doit débourser de l'argent. Il ne faut pas qu'on mette que quelqu'un puisse avoir dans sa tête gratuité de l'enseignement veut dire qu'on ne débourse pas, on ne débourse plus de l'argent sur l'enseignement. Non. Il y a des parents qui payent les impôts, qui doivent payer les impôts, de façon à ce qu'il y ait un pourcentage qui doit être alloué à l'enseignement. Et ce n'est pas que c'est par le fait qu'il paye son impôt et qu'on ne lui demande pas de payer les frais scolaires qu'il pense que non, c'est gratuit. Non, il faut qu'on enlève cela dans notre idée. Et puis, l'État aussi qui doit mobiliser de l'argent doit nécessairement aussi sécuriser cet argent qui est perçu des parents. Et doit aussi savoir affecter cet argent nécessairement à l'enseignement, de façon à ce que les choses puissent bien marcher. Donc, je pense que le terme gratuité, il ne faut pas qu'on puisse dire que personne ne doit débourser de l'argent.
Jovin Moukadi, juste un mot pour conclure.
Juste un mot, c'est pour dire, comme dit le professeur tout à l'heure, que la part que supportent les parents aujourd'hui pour assurer l'éducation des enfants doit aller en diminuant et cette part va du côté du gouvernement. Et cela va créer un équilibre qui fera que, ensemble, comme je l'ai dit, nous pouvons aller de l'avant pour sauver l'éducation de notre pays.
Merci.
Voilà, je vous
merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé. Restez branchés sur la radio de la paix. Au revoir.